à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, mais aussi Tiphaine de Rocchini, Samuel Bernard, Anne-Sophie Pierry, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par Dalia. Nous poursuivons donc notre série consacrée à l'Europe. L'Europe comme ligne de fracture dans cette campagne pour l'élection présidentielle. En effet, le clivage autour de l'Europe a été profond, assez largement organisé, structuré. Bien sûr, les débats sont assez largement structurés autour de cette question. D'ailleurs, les deux qualifiés pour le second tour incarnent parfaitement ces divisions, avec d'un côté une Marine Le Pen rejetant l'Europe, souhaitant s'en distancer, voire même en sortir, alors qu'Emmanuel Macron, lui, prône une réforme de l'Europe, une relance de sa construction, considérant que la France ira mieux à condition que l'Europe aille mieux également. Après avoir évoqué la crise migratoire, après avoir interrogé la question de l'élargissement, on va donc parler ce matin d'économie et des débats autour de cette zone euro. L'euro, la devise qui divise, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
L'euro est une monnaie en réalité dont bénéficient beaucoup les multinationales et les banques, mais moi je suis là pour défendre le peuple. Et je conçois d'ailleurs que les intérêts des banques et des multinationales puissent être contraires à l'intérêt du peuple. Mais moi, je veux être présidente de la République française pour défendre les intérêts du peuple, et pas pour défendre les intérêts des multinationales et des banques.
Difficile de faire plus antagoniste que les lignes européennes et économiques des deux candidats au second tour de l'élection présidentielle française. Sur la forme d'abord, l'une, la semaine dernière, refuse un drapeau européen derrière elle lors d'une interview sur TF1, quand l'autre scande son europhilie lors de ses meetings. On en entendait d'ailleurs un extrait à l'instant à Versailles en décembre dernier, pendant que les drapeaux européens volent largement au-dessus des têtes des militants. Sur le fond aussi, l'opposition est radicale. Sur la monnaie unique notamment, la candidate du Front National plaidant pour une sortie de la zone euro soumise à un référendum et un retour à la monnaie nationale, alors que celui d'En Marche souhaite instaurer un budget euro adossé à un parlement de la zone euro. Emmanuel Macron n'a pas l'Europe honteuse, mais chevillée au corps et compte bien relancer le projet européen que beaucoup rejettent tant aujourd'hui. Alors que propose concrètement Macron pour réformer l'Europe et est-ce satisfaisant? La zone euro est-elle réellement synonyme d'austérité, de rigueur budgétaire? Sans l'euro, est-il possible de savoir quelle serait notre situation économique? Pourquoi le sujet aussi a constitué le point de friction le plus aigu de cette campagne? Faut-il réellement mettre à plat le fonctionnement de la zone euro et comment? C'est la grande question que nous allons nous poser ce matin, mais nous parlerons aussi de traités, de libre-échange avec Paul Magnette, ministre-président de la Wallonie, qui s'était fait connaître pour son discours virulent contre le CETA il y a quelques mois, CETA auquel seul Emmanuel Macron, parmi les 11 candidats du premier tour, était ouvertement favorable. Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ici ce matin Benjamin Coria, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, professeur en sciences économiques à Paris 13 et puis membre du collectif des économistes atterrés, auteur notamment, co-auteur donc de cet ouvrage « Changer d'avenir », sous-titré « Réinventer le travail et le modèle économique aux liens qui libèrent ». Également avec nous depuis Bruxelles, dans les bureaux de notre correspondant Quentin Dickinson, Charles de Marcilly, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous également ce matin. Vous êtes responsable du bureau bruxellois du think tank Fondation Robert Schuman. Et puis j'indique que vous avez publié, vous, le rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2017, aux éditions Ligne de Repère. Alors on va commencer peut-être avec une première réaction avec vous, Benjamin Coria. Et puis je vous ferai réagir également Charles de Marcilly. On voit ce second tour qui va se disputer entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, la candidate souverainiste de la fermeture, du désengagement de l'Union européenne contre celui de la mondialisation, dit-on, d'une France dont l'avenir passe par l'Europe. On voit que le résultat finalement de ce premier tour, il est intimement lié à la question du rapport que la France devra entretenir en réalité à l'Europe de demain. En fait, jamais l'élection française n'avait été aussi marquée par l'interrogation autour de ce rapport à l'Union européenne. Et on sent très clairement que l'Europe sera peut-être le grand terrain de bataille, de confrontation pour ce deuxième tour, hein, Benjamin Coria. C'est assez net.
Oui, je pense que les deux candidats qui sont issus du premier tour ont des positions extrêmement tranchées et opposées sur la question européenne. Donc probablement, oui, ça va être un terrain d'affrontement central. Moi, je suis un peu ennuyé, hein, je vous cache pas, que le débat soit entre ces deux positions extrêmes, parce que personnellement, je me rattache évidemment pas du tout, hein, à la position isolationniste, etc. de Marine Le Pen, qui va peut-être, elle a déjà commencé, hein, essayer de nous faire croire qu'elle est européenne, etc. Mais en vérité, son programme ne peut fonctionner que sous la forme de la sortie, hein, de l'Europe. Hein,
mais donc, on pourrait se réjouir quand même d'avoir justement deux positions radicalement différentes. Ce sont deux visions du monde qui se posaient
non,
après tout.
Voilà
un choix réel.
Oui, mais si vous voulez, ce qui ne va pas, c'est que l'avenir de l'Europe, à mon sens en tout cas, ne passe ni par une position ni par l'autre. Bon, Marine Le Pen, on sait, il faut sortir, etc. Elle, avec des dégâts qui vont être immenses, quoi qu'elle en dise. Bon, alors maintenant, du côté de Emmanuel Macron, ce qui est embêtant, je vais parler clair, hein, j'ai l'habitude de parler clair. Ce qui est embêtant, c'est que il pense, et ses conseillers pensent, et je le sais pour en avoir discuté, et éventuellement même explicitement à la radio avec Aguillon, par exemple, qui est un de ses conseillers.
Aguillon.
Voilà, Philippe Aguillon, Collège de France. Bon, il pense que, oui, il faut réformer des choses en Europe, mais que pour pouvoir les réformer, il faut d'abord être un bon élève du traité budgétaire. Et cette vision est catastrophique, parce que ça n'est pas, passez-moi l'expression, une fois qu'on aura tout accepté des demandes de l'Allemagne et des traités budgétaires, qu'on va être en position de négocier quoi que ce soit. Donc si vous voulez, c'est assez embêtant.
On va revenir justement sur le projet d'Emmanuel Macron, sur ce que ça pourrait changer concrètement au fonctionnement de l'Europe. Mais Charles de Marcy, d'abord. Mais pareil, même question, réaction autour de ce résultat du premier tour. On voit une Marine Le Pen qui parie d'abord sur un contexte international, il faut le rappeler, qui est assez favorable à ce repli national. On l'a vu du côté des États-Unis, on l'a vu du côté de la Grande-Bretagne. Elle pense que finalement, elle pourrait bénéficier d'une réserve de voix chez tous ceux qui dénoncent l'Europe et ses contraintes, notamment en matière économique, de Nicolas Dupont-Aignan, voire même justement, on en parle beaucoup, à Jean-Luc Mélenchon, en passant par tous ceux qu'on appelle les petits candidats du premier tour. Est-ce que vous pensez que la défiance à l'égard de l'Europe pourrait s'avérer finalement plus forte que les craintes que son parti suscite malgré les efforts de dédiabolisation, Charles de Marcy?
En effet, il y a une ligne de fracture. Si on prend les 11 candidats à l'élection présidentielle, on s'aperçoit qu'il y en a 10 qui avaient voté soit contre Maastricht, soit contre le référendum sur la Constitution en 2005. Donc très clairement, il y a une polarité. Le second élément, c'est de penser que de façon presque facile, si on sortait de l'Union européenne, si on sortait de la zone euro, tout serait résolu. On voit que cette vision est fictive. Le troisième élément, c'est qu'il faut, à mon avis, distinguer les motivations de certains électeurs, notamment des partis extrêmes. Si on prend, par exemple, sur l'euro, la Fondation Schuman avec Ipsos s'est publié lundi dans le Figaro, a publié ou a rappelé un sondage qu'on avait fait en mars et qui montrait qu'il y avait plus de 70% des Français qui étaient attachés à l'euro, qui voulaient pas en sortir. Donc il faut faire attention entre la dialectique qui est, il faut trouver un ennemi commun, et ça peut être Bruxelles, qui finalement est un punching ball assez facile, et puis après la réalité, est-ce que vous avez envie que votre retraite soit payée en francs français ?
Et ça c'est intéressant, Benjamin Coria, cette question de l'attachement en réalité des Français à la zone euro, à la monnaie unique. Parce que, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais j'ai le sentiment qu'au début de la campagne, un certain nombre de candidats se sont montrés assez clairement en faveur d'une sortie de la zone euro, donc de quitter cette zone euro. Et puis progressivement, me semble-t-il, la distance à l'égard de Bruxelles s'est progressivement réduite. Et là je pense à Jean-Luc Mélenchon, mais aussi à Marine Le Pen, qui ont débuté avec une position extrêmement claire sur la manière dont ils comptaient reprendre leur souveraineté, même si c'est vrai, bien sûr, elle était plus affirmée chez la candidate d'extrême droite qui revendique, elle, vraiment de recouvrer cette souveraineté monétaire, alors que le candidat de la gauche radicale voulait, dans un premier temps, imposer une négociation avec le partenaire européen, même si on comprend bien que le plan B, c'est de finalement quitter quand même la zone euro. On a senti quand même une hésitation, pour pas dire carrément un recul, sur le rapport à l'Europe et à la zone euro. Et peut-être que de ce point de vue-là, Charles de Marcy a raison de le rappeler, l'attachement peut-être sous-estimé des Français à l'égard de l'euro peut expliquer ce recul, me semble-t-il. Benjamin Coria.
Deux choses. Deux choses. Premièrement, surtout en matière européenne, il faut vraiment beaucoup se méfier des sondages. Hein. Rappelons-nous 2005, hein, je veux dire, seule la Ligue de la Terre pouvait voter non au référendum, hein, si on écoutait les commentaires, les sondages, etc. Et puis, en fait, il y a eu 54% des Français qui ont voté contre, de la même manière que les Hollandais ont voté contre, etc. Donc, méfions-nous sérieusement des sondages.
Mais oublions les sondages, voilà. Mais on le voit. Alors, bien, on le voit pour la
oui,
France,
oui,
ça paraît quand même assez clair.
C'est la deuxième chose.
Sur la Grèce, on voit aussi que les Grecs auraient pu faire le choix de quitter la zone euro. Oui. Or, visiblement, ils y sont plus attachés qu'on ne le pense, puisqu'ils décident de rester dans la zone euro. Donc, on peut dire que l'attachement est réel, au-delà des sondages.
Non, mais il y a deux questions. Il y a les sondages et puis il y a les votes réels qui sont ceux que j'ai indiqués. Et puis, voilà. Alors après, la deuxième chose, c'est que vous avez tout à fait raison. Je pense que même les candidats qui, au départ, s'étaient présentés sur des positions assez anti-euro, c'est pas pareil, euro et européenne. Hein, il faut encore distinguer les deux choses. Bien, parce qu'on peut sortir de la zone euro et garder l'Europe. Bien. Donc... Même les candidats qui se sont manifestés de manière anti-heureux ont effectivement tempéré leur discours. Hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Et y compris Marine Le Pen aujourd'hui, alors que fondamentalement son programme est un programme de sortie de l'euro, parce qu'il n'est pas tenable sans sortie de l'euro, et même sans sortie de l'Europe, est en train d'adoucir et de travestir son discours, puisqu'elle explique qu'elle est elle-même européenne. Hein, c'est ce qu'on peut lire dans la presse de ce matin, à sa manière. Bon, donc voilà. Mais il demeure qu'on a un problème avec l'euro, qu'il y a un problème de construction de l'euro, et que cette construction de l'euro... se traduit par des effets tout à fait dramatiques.
Et vous pensez que les effets dramatiques, et je redonne la parole ensuite à Charles de Marcy, mais vous pensez que ces effets dramatiques ne doivent pas nous faire écarter l'hypothèse d'une sortie de la zone euro ?
Écoutez,
c'était vos positions il y a quelque temps, les avez pas changées.
Moi, ma position, c'est que l'objectif numéro un est une réforme de la zone euro et qu'il faut se battre pour garder l'euro et le réformer.
Mais pas à n'importe quel prix.
Et regardez, on est aujourd'hui dans une situation totalement folle. Vous me dites que la Grèce a finalement fait le choix de rester dans l'euro. Oui, parce
c'est
que
moi, c'est
les
comptes.
Oui. Non, mais c'est pas faux, c'est pas faux. Je vous rappelle, c'est pas faux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on impose à la Grèce ? On impose à la Grèce des excédents budgétaires de 3,5%, ce qui est quand même tout à fait gigantesque, au détriment, sans croissance, donc au détriment du versement des pensions, du salaire minimum, de l'éducation, de la santé. On va où avec ça ? On va nulle part. Donc je veux dire, une possibilité de rejet est possible.
Charles de Marcy, sur cette hypothèse d'une sortie de zone euro et peut-être sur les conséquences, parce qu'évidemment il y a régulièrement des débats, très souvent, sur ces conséquences d'un retour à la monnaie nationale, notamment sur le fait que la dévaluation qui s'ensuivrait aurait immédiatement pour effet d'augmenter la dette, c'est un des éléments qu'on souligne. Qu'en est-il concrètement ? Est-ce qu'on peut essayer de dépassionner un tout petit peu ce sujet et expliquer l'impact de cette dévaluation, notamment sur la dette, parce que c'est un vrai sujet celui-ci, Charles de Marcy ?
Ah oui, sur la dette, en quelle monnaie est-ce qu'elle serait libellée ? C'est une vraie question. Si vous avez aussi ce qu'on appelle un bank run, si vous avez un contrôle des capitaux, parce que des capitaux qui iraient pas très très loin, ils iraient chez nos voisins, c'est aussi simple que ça. Donc les conséquences, très sincèrement, d'un point de vue économique et purement quantitatif, j'ai du mal à les mesurer. J'entends des dépréciations de 40%, d'autres vont dire 20, d'autres 60. Sincèrement, j'en ai pas la moindre idée et peut-être que notre collègue économiste aurait des chiffres ou des données plus précises. Ce que je voudrais rappeler, c'est que la sortie de la zone euro, c'est lié à la sortie de l'Union européenne. Si juridiquement on peut sortir de l'Union européenne, avec le fameux article 50 qui désormais est très connu et qui est utilisé par les Britanniques, cette sortie d'un État membre de la zone euro, dans les textes, aujourd'hui, n'est pas prévue. Donc il faudrait sortir de l'Union européenne, sortir de la zone euro, et puis revenir dans l'Union européenne, ce qui paraît quand même tout ça très complexe. Donc ce que Marine Le Pen propose, avec un référendum, et je suis tout à fait d'accord avec votre invité, les référendums, Macron, mais ce type de votes sont très dangereux. Donc on partirait dans une zone complètement inconnue, même si les sondages peuvent estimer qu'il y a un attachement de la monnaie, ou en tout cas, il y a la crainte de perdre cette monnaie est supérieure au fait d'avoir un attachement hypothétique à un franc français ou un franc belge pour les Bruxellois, montre tout de même que cette sortie de la zone euro serait liée, à la sortie de l'Union européenne, et que ce serait un saut dans l'inconnu et une perte collective, évidemment, de moyens. Tout à l'heure, j'entendais votre invité qui citait les retraites. Est-ce que vous voulez que votre retraite, une nouvelle fois, soit payée en francs français? Je ne suis pas convaincu qu'il y ait beaucoup de Français qui souhaitent aller dans cette direction.
Benjamin Correa, peut-être un tout petit mot sur cette question de la dévaluation et de son impact sur la dette que nous dit l'économiste.
Même les économistes de métier, on a beaucoup de difficultés à chiffrer les choses. Ça va de, disons, une dépréciation monétaire. Ça va de 15 à 30%, disons que c'est des chiffres couramment... couramment cité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera un choc majeur. Ça, je crois qu'il faut pas taire ça. Ça sera un choc majeur. Ensuite, l'impact sur la dette elle-même, c'est-à-dire quelle est la part de la monnaie, quelle est la part de la dette qui va être réévaluée, surévaluée par rapport à celle qui pourrait être payée uniquement en francs. Là aussi, c'est l'incertitude. Mais le choc est majeur. Il y a aucun doute là-dessus.
Revenons quasiment 20 ans en arrière, des temps où on n'avait pas encore la monnaie unique, mais où on l'attendait quand même.
L'euro va changer l'Europe, et d'abord les mentalités. Et je tiens ce soir à vous rendre hommage. L'euro, c'est d'abord le fruit de vos efforts et de vos succès. C'est aussi l'expression de votre lucidité et de votre esprit d'ouverture. Car si vous ne l'aviez pas voulu, si vous ne l'aviez pas rendu possible, nous serions restés en dehors de cette grande aventure. Pour nous, Français, c'est une chance. L'euro nous apportera plus de choix dans nos achats, des prix plus bas, de nouvelles parts de marché, de nouvelles possibilités d'investissement et donc d'emploi. Il nous apportera plus de stabilité dans un monde incertain, plus de force face aux grands pôles économiques et politiques qui existent ou se développent sur la planète.
L'euro, c'est une chance, nous disait Jacques Chirac lors de ses vœux, 31 décembre 1998. Considérer qu'il est préférable de sortir l'Union européenne, de sortir de la zone euro, signifie qu'on considère que finalement ses bienfaits sont inférieurs à ses effets négatifs sont supérieurs à ses effets positifs. Ce qui sous-tend quand même d'en réaliser, Benjamin Correa, un bilan un peu général depuis son adoption. Et là encore, il y a de nombreuses divergences, des divergences immenses sur cette question de savoir si l'euro a été un atout ou pas. Quelles sont selon vous les contributions positives de l'euro sur l'économie française, et puis peut-être celle qui vous inquiète le plus, c'est celle qui a été négative.
Alors écoutez, pour être tout à fait clair, je comprends le discours de Jacques Chirac, c'est-à-dire que au moment où on a fait l'euro, les Français, ceux qui sont très opposés à l'euro, l'on semble-t-il oublié. Mais au moment où on l'a fait, on était quand même dans une période de troubles monétaires permanents.
Avec une guerre des monnaies permanentes.
Bien entendu. Je rappelle qu'entre 80 et 83, on a procédé en France à 3 dévaluations. Bon. Donc, je veux dire, il faut pas du tout imaginer que on a fabriqué l'euro comme ça, que c'est une lubie, etc. Non. On avait besoin de stabiliser, la monnaie et les monnaies nationales et, en créant une monnaie européenne, dans un contexte de turbulence extrême.
Mais alors, est-ce que vous êtes d'accord que sortir de la zone euro, c'est revenir dans cette zone de turbulence?
Attendez, on fait chose par chose, on essaye de répondre à votre question, qui est le bilan. Donc, on avait d'excellentes raisons de faire l'euro. Ça, je tiens à le rappeler. Bien, voilà. Juste un dernier mot, Soros a même eu la peau de la livre sterling. C'est-à-dire, pas de n'importe quoi. Voilà. Bien. Ensuite, deuxième point. Donc, on a eu raison, d'une certaine manière, de chercher une solution de ce côté-là. Deuxième point. La solution qu'on a mis en place, c'est-à-dire l'euro tel qu'on l'a construit, on l'a construit sur des défaillances institutionnelles. Et je veux être extrêmement clair là-dessus. On ne construit pas une monnaie unique sans budget commun, sans convergence fiscale, sans convergence sociale et sans un minimum de fédéralisation des transferts entre les différents pays. Quand on a fait l'euro, on a prétendu faire l'euro sans les conditions de l'euro et avec une sorte de pari que les économies allaient converger, comme par miracle. Il s'est passé l'inverse. Il s'est passé l'inverse. Donc, je veux dire, le bilan, c'est quoi? C'est qu'on a eu raison de faire l'euro. Jusqu'à un certain point, il nous a prélevé, il nous a préservé des tempêtes monétaires, etc. Mais il a créé ses propres problèmes. Et ses propres problèmes, c'est les divergences auxquelles on a assisté, notamment entre l'Europe et l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Et maintenant, il faut résoudre ça.
Personne ne peut justement rejeter ces divergences que vous soulignez. Je vous donne la parole dans un instant, Charles de Mercy, mais je poursuis un tout petit peu avec vous, Benjamin Coria, parce que maintenant qu'on est dans cette situation, vous dites l'un des problèmes, peut-être le principal, c'est qu'il n'y a pas de réel transfert et qu'on n'a pas organisé les choses, il n'y a pas les institutions et les fonctionnements qui vont avec. Emmanuel Macron souhaite aller vers plus d'Europe et il préconise des transferts de souveraineté, je le cite, pour pouvoir investir beaucoup plus aujourd'hui. Nous voulons un budget de la zone euro, vous en parliez, voté par un parlement de la zone euro et exécuté par un ministre de l'économie et des finances de la zone euro. Est-ce que ça serait de nature justement à pallier les problèmes actuels?
Ma réponse est non et je vais vous dire pourquoi. Mm-hmm. Et je vais vous dire pourquoi parce que Emmanuel Macron commence par dire nous devons être de bons élèves, nous devons respecter les 3%, nous devons y aller, etc. Et en vérité, c'est pas les 3% hein, parce que le traité budgétaire de 2012 c'est 0,5% structurel, mais c'est 0,5% parce que la leçon qui a été tirée de la crise de 2008-2012, c'est 60% de dette, 3% de déficit budgétaire. Ça n'a pas marché, donc maintenant ça va être 60%, 0,5% plus des retours automatiques. Ça veut dire que au lieu de repenser, on a tout durci. Voilà. Donc, c'est ça qui m'embête avec Emmanuel Macron, c'est que il veut être un bon élève d'un traité qui lui-même a durci des conditions intenables. Alors, parler
et
ensuite...
Sur le Parlement de la zone euro. Sur le budget commun.
Sur le Parlement de la zone euro, ça, si vous permettez, c'est plus la proposition de Benoît Hamon et de Piketty, en l'occurrence, et qu'il voulait imposer.
Benoît Hamon qui n'est pas au second tour, vous avez
noté. Qui n'y sont pas, bien sûr. Non, mais il ne faut pas attribuer aux uns ce qui appartient aux autres.
Je n'attribue rien du tout, je constate les propositions.
Oui, mais avec un budget de la zone euro et avec un Monsieur Europe, ça ressemble furieusement à la proposition de Monsieur Schäuble. Hein? Donc on n'est pas du tout dans une logique de transformation, on est dans une logique de souverainisation d'une Europe à l'allemande. C'est ça qui m'inquiète.
Monsieur Schäuble, ministre des Finances allemand. Charles voilà. de Marcy, alors il y a beaucoup de choses, vous avez pris un peu de retard, à la fois sur la question du bilan de l'euro, à la fois sur cette proposition de Parlement de la zone euro avec ce budget commun. Charles de Marcy.
Alors, j'essaie de répondre un petit peu tout rapidement. Le premier élément, c'est que la France est un des rares pays de la zone euro à être en déficit courant et que cette notion de bon élève est ici un peu malmenée par nos partenaires européens, puisque par exemple, on a eu 3 prolongations au report de nos différents objectifs. Donc, je vois très bien la logique, et c'est vrai qu'on peut discuter sur les taux, les différentes logiques nationales, mais collectivement, il faut rappeler que c'est une zone euro de 19 États membres, que certains ont le sentiment de faire des efforts pour rester à bord et que d'autres regardent, parce que même si nous on regarde avec le prisme de l'élection présidentielle française, il faut le regarder avec le prisme de chaque élection au sein des 19 États membres, et donc il y a quand même cette coexistence politique qu'il faut garder à l'esprit. Sur la principale vertu de la création de l'euro, et c'est un peu le paradoxe, et je suis là-dessus l'analyse de l'économiste Mathilde Lemoine, qui est de dire que quelque part ça a redonné aussi de la souveraineté monétaire à la France. Alors j'explique, c'est avant la monnaie unique, il y avait la politique monétaire française qui était en partie dépendante de celle des banques centrale, soit américaine et notamment allemande, et que l'instauration de l'eurosystème a permis à la France de peser sur la conduite de la politique monétaire de l'Allemagne, au moins par extension, à la hauteur de sa participation au capital de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui de mémoire est autour de 20% pour la France, contre à peu près 25% pour l'Allemagne.
Alors, bon, évidemment, vous en doutez, optimum. Benjamin Coria ici fait l'amour, hein, mais je vous laisse poursuivre.
Bien sûr.
Mais, et réagir à... Non, on laisse finir Charles de Marseille.
Mais Benjamin l'a rappelé tout à l'heure, on avait quand même cette guerre monétaire, et que si aujourd'hui on subit en partie, on a aussi cette capacité à pouvoir peser. Et je crois que le message d'Emmanuel Macron sur cette notion de bon élève, mais qui est aussi collectif, chaque ministre des Finances qui vient à Bruxelles rappelle que la France a vocation à être un bon élève. Donc c'est pas propre à un candidat, c'est une démarche collective de son rapport vis-à-vis de ses autres partenaires européens et à démontrer qu'on joue ce jeu commun, même si ça n'empêche pas de vouloir avoir des propositions pour le modifier. Est-ce que l'euro est une zone monétaire optimale? Non, bien sûr que non, mais c'est vrai toutes. Il n'y en a pas beaucoup, à mon avis, qui sont optimales. Et sa création était évidemment un acte politique. D'ailleurs, comme toute décision d'instauration monétaire. Donc il faut aller plus loin. Aller plus loin, c'est quoi? Donc là, vous avez différentes propositions. Alors, il y en a certaines qui viennent de Chao Bleu, certes, mais si vous regardez les rapports qui existent, notamment celui des 5 présidents, on voit qu'on reprend ces différentes idées. Il faut bien faire attention que c'est pas parce qu'il y a un candidat aujourd'hui qui sera élu en France que demain, on aura un budget de la zone euro et surtout une capacité à pouvoir le gérer. Donc avoir un parlement de la zone euro, un parlement qui n'a pas de budget à voter, c'est un parlement qui a les mains vides. Donc il est très clair que ces deux dossiers sont liés. Et dans les différents rapports de ce qu'on appelle les 5 et maintenant les 6 présidents des institutions sur justement l'avenir de l'union économique et monétaire. Il rappelle qu'à moyen terme, donc là en ce moment on est plutôt dans la phase de mettre des propositions sur la table et que d'ici 2020-2023, on pourrait justement avoir cette conceptualisation de différents éléments, mais que l'ensemble de nos partenaires ne sont pas tous sur la même ligne.
Benjamin Coria, je vous fais donc réagir avec cette idée de Charles de Marcy qui nous dit finalement la France aurait repris paradoxalement de la souveraineté monétaire en adoptant l'euro.
Certainement pendant la période initiale, c'est ce que je disais tout à l'heure, puisque ça a mis fin à des zones de tempête monétaire dont la France était une victime. Mais par la suite, il faut bien voir que il y a eu des, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, on avait fait le pari de la convergence et on a eu la divergence. Donc il y a des vainqueurs et des vaincus de l'euro. Alors l'Allemagne qui nous donne des leçons, etc. Elle est pas si bonne élève que ça, l'Allemagne, parce que d'abord à son tour à l'époque, elle a dépassé les 3% et elle s'est bien gardée d'imposer la moindre sanction. Elle a fait voter à la Commission qu'il n'y aurait pas de sanction. De plus, aujourd'hui, ça doit quand même être rappelé, l'Allemagne est à quelque chose comme plus de 8% d'excédent en matière de commerce extérieur. Les traités européens disent qu'on ne doit pas dépasser 6%. Ça veut dire que l'Allemagne fait de la prédation en termes de commerce extérieur, sur le reste de l'Europe, et ne paye rien pour ça.
Pour quelle raison?
Pour quelle raison? C'est-à-dire, vous posez
pour
quoi?
Pour quelle raison est-ce qu'elle est en capacité, justement, de faire cette prédation que vous...
Ah, mais elle est en capacité de faire cette prédation, je pense, personnellement, parce qu'elle a réussi à combiner deux choses. D'une part, des produits haut de gamme, qui viennent depuis longtemps, et d'autre part, une extension de sa sous-traitance à l'Est, dans des pays à bas coût de manœuvre où elle a été capable de maintenir la haute qualité.
Est-ce que c'est lié au fait que l'euro serait, c'est une chose qu'on entend parfois, surévalué pour la France et sous-évalué pour l'Allemagne?
Et bien entendu. Et puis troisièmement, cette monnaie commune fait qu'elle est tout à fait sous-évaluée pour l'Allemagne, la Hollande, etc., et tout à fait surévaluée pour d'autres pays. Donc, si vous voulez, l'Allemagne veut que d'autres soient bonnes élèves, il faudrait qu'elle-même respecte les traités. Et je répète qu'elle arrête de faire de la prédation sur les pays de l'Europe du Sud. Et elle est en dehors des clous en ce qui concerne un des éléments essentiels, parce que c'est 9%, c'est 60%, 3%, 6% de déficit, de bénéfices extérieurs. L'Allemagne est pratiquement à 9. Donc, à quoi on joue, là? À quoi on joue? L'Allemagne ne peut pas, je termine d'un mot, l'Allemagne ne peut pas tirer tous les bénéfices qu'elle tire sans accepter de payer une partie des frais communs.
J'entends. Restons sur la politique monétaire et la question de la gouvernance, parce que l'une des grandes critiques à l'égard de l'euro, et on vous a entendu la formuler, c'est de dire qu'on a commis cette erreur de bâtir une monnaie sans lui adjoindre les institutions, les mécanismes indispensables à son fonctionnement. Et en même temps, et là je vais vous faire bondir, la BCE parvient bon an mal an à mener une politique monétaire, qu'elle vous plaise ou non. On se souvient notamment de la crise des dettes publiques qui laissait peser des risques d'attaque sur les marchés, et à cette époque, le directeur de la BCE, Mario Draghi, avait réussi, d'une certaine manière, à maîtriser les choses pour maîtriser les emprunts des États. Souvenez-vous.
Le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de lancer un programme élargi de rachat d'actifs englobant les programmes de rachat existants, de titres adossés à des actifs et d'obligations sécurisées. Avec ce programme élargi, l'addition des achats mensuels des titres privés et publics s'élèvera à 16 milliards d'euros. Ils sont destinés à être utilisés jusqu'à fin septembre 2016. En mars 2015, le système euro commencera à acheter des titres d'investissement de qualité libellés en euros émis par des gouvernements et des agences de la zone euro et des institutions européennes du marché secondaire.
Ouais, on a été là en janvier 2015 avec cette annonce par Draghi du rachat de 60 milliards d'euros de dettes publiques et privées par mois entre mars 2015 et septembre 2016. Certains avaient vu là même, d'une certaine manière, une BCE qui se transformait de facto en gouvernement de l'Union monétaire. Une réaction sur cette action et peut-être sur l'action globale de la BCE en matière de politique monétaire et ce qui semble constituer aujourd'hui encore ses principales failles dans la gouvernance.
Écoutez, c'est très intéressant, hein, c'est très intéressant ce rappel. Pourquoi ? Parce que ça montre que un certain nombre des failles sur lesquelles était construite l'euro, à savoir l'interdiction pour la BCE d'acheter des dettes souveraines, on a dû passer outre. Hein, voilà. Donc c'est pour dire que il y a un certain nombre de failles sur lesquelles
ce qui est positif.
Qu'on a,
ce qui est positif.
En soi, c'est positif. Sauf que en se limitant à ça. Et en ne pratiquant pas l'autre élément, qui est la politique budgétaire, on a créé une situation extrêmement dangereuse. On a une situation de surliquidité qui ne s'investissent pas ou très peu et qui risque de redonner naissance à de la spéculation. Mais si vous voulez, c'est très intéressant de voir que les traités n'ont pas pu être respectés. Mmh. De la même manière, j'insiste sur ce point, que l'article 2, je crois que c'est l'article 125, je ne sais plus si c'est 125 ou 134 du traité.
Je ne pourrais pas vous dire.
Oui, mais ce qui compte, c'est son contenu. Son contenu, c'est le no bailout, hein, c'est-à-dire le fait qu'on ne vient pas en aide à un pays qui va mal, puisque l'idée, c'était chacun doit faire le ménage. Il a fallu revenir en arrière, parce que sinon, l'Irlande, le Portugal, la Grèce sortaient de l'Union européenne. Donc, vous voyez bien que, la constitution de l'euro ne va pas. Donc, au lieu de bricoler petit bout par petit bout, discutons un peu sérieusement des conditions qui la rendront possible.
Je crois que c'est l'article 125, nous souffle Charles de Marcilly.
Voilà,
qu'on retrouve
125.
Tout de suite à Bruxelles, toujours dans les bureaux de notre correspondant de Quentin Dickinson. Charles de Marcilly, sur cette action de la BCE, sur ses failles aujourd'hui encore, sur cette asymétrie peut-être que souligne Benjamin Coria en disant que en face de cette action, on a encore laissé des contraintes budgétaires trop fortes. Charles de Marcilly.
Oui, c'est bancal, c'est une construction bancale, une construction politique, pas avec les conséquences de la crise qu'on a pu connaître. Il y avait des éléments qui étaient quand même assez prégnants et sur lesquels on essaye d'avancer. Je pense notamment à l'union bancaire, notamment sur le contrôle des banques, sur les différentes exigences qu'on peut avoir et d'avoir une certaine stabilité à côté de la discipline, même si je suis sûr que ce mot va faire bondir dans votre studio, la discipline budgétaire de certains États. Si on revient un petit peu en arrière, on s'aperçoit quoi ? On s'aperçoit que la Banque Centrale Européenne a dû réagir en urgence parce que évidemment il y avait un risque réel que tout s'effondre. Et donc elle a réagi en prenant un rôle politique et elle a fait de la politique monétaire. Elle a presque dépassé ses fonctions qui à l'origine sont d'essayer de maintenir des taux d'intérêt, une inflation surtout basse autour de 2%.
Et l'Allemagne a été contrainte de laisser faire.
Et l'Allemagne s'est retrouvée, coincée avec ce risque de délitement de la zone euro et donc d'une faillite collective de chaque État membre de cette zone commune. Le deuxième élément, c'est de se rappeler aussi, notamment dans le cadre de la Grèce, si on retourne le 14 juillet, dans la nuit du 13 au 14 juillet, où vous avez les différents plans d'aide, on voit que les semaines précédentes, vous avez ces fameuses réunions qui, d'ailleurs, juridiquement, n'ont pas réellement de base juridique très forte, où vous avez les chefs d'État et de gouvernement qui sont présents, vous avez les responsable des institutions. Vous avez Mario Draghi pour la Banque Centrale Européenne. Et puis, on se met d'accord comme un peu des marchands de tapis pour s'assurer, notamment dans le cadre de la Grèce, qu'on va pouvoir transférer et accompagner. Alors, on met beaucoup de conditionnalités, évidemment. Les exigences qui sont demandées au peuple grec sont exorbitantes. Mais on a cette solidarité de fait parce que le risque majeur, c'est de pouvoir détruire. Donc ça, c'est dans l'urgence. Maintenant, et c'est ce que il faut regarder aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à court terme me paraît ambitieux, mais à moyen terme, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement ne plus se retrouver dans cette situation. Donc évidemment qu'il y a le contrôle des banques, parce qu'il y avait d'abord une crise financière et bancaire, et puis aussi cette discipline qui est demandée, alors avec certains ajustements, et donc les Français sont plutôt bien placés puisqu'on ne répond pas à l'ensemble de ces fameux objectifs, d'autres États plus petits, politiquement moins puissants, ont sentiment d'avoir, eux, réellement contribué, je pense notamment à des États baltes, et qui, lorsqu'ils doivent prendre des décisions ou regarder notamment sur les budgets des différents États membres, les déséquilibres macroéconomiques qui ont été cités tout à l'heure, de l'Allemagne parce que les déséquilibres sont trop forts, mais aussi d'autres États qui ont des déséquilibres qui sont trop faibles. Et donc de pouvoir avoir un droit de regard, même s'il n'y a pas un droit de pouvoir et de pouvoir contraindre les autres États à aller dans une direction ou dans une autre, d'essayer de s'assurer qu'au moins on prenne la même direction. Mais pour cela, il faut être capable aussi d'avoir un budget et de pouvoir aider et de ne pas se retrouver dépendant de cette Banque Centrale Européenne de façon directe. Et cette création d'un budget, là, d'un point de vue politique, elle pose des vraies questions. Je rappelle aujourd'hui que le budget de l'Union européenne, c'est 1% des PIB cumulés de l'ensemble des États membres. Et ça, par exemple, ce ne serait pas suffisant pour pouvoir répondre aux défis asymétriques que la zone euro pourrait subir.
Je voudrais qu'on revienne à la question de l'austérité, Benjamin Coria, que vous évoquiez, parce que beaucoup ont dénoncé évidemment en Europe cette austérité pour répondre, vous le disiez, aux exigences en termes de limites de déficit budgétaire. Une austérité qui aurait cassé la croissance européenne. C'était notamment, évidemment, vous parliez de la Grèce, la position d'Alexis Tsipras. Écoutez.
On peut dire que mon pays, ces 5 dernières années, est devenu un champ d'expérimentation de l'austérité. Mais nous devons bien voir la réalité en face. L'expérience a échoué. Ces 5 dernières années, le chômage a explosé, la pauvreté a explosé, la marginalisation, l'exclusion sociale se sont développées, comme la dette publique d'ailleurs, qui a avant le début des programmes, était à 120% du PIB contre 180% du PIB aujourd'hui.
Voilà, Alexis Tsipras qui nous dit que la Grèce est finalement un champ d'expérimentation de l'austérité et une expérience qui finalement s'est révélée mauvaise. Et d'ailleurs, c'est un point qui désormais fait consensus en réalité chez beaucoup d'économistes. Même le FMI a fini par dénoncer ses excès d'austérité. Il y a plusieurs questions du coup. C'est finalement pourquoi est-ce qu'on n'a pas tiré les leçons de ces exagérations en matière d'austérité? On sait que bien sûr l'Allemagne n'y est pas pour rien là-dedans. On voit que sur la dette publique, l'Allemagne est toujours aussi attachée à ne pas laisser filer les déficits. Et donc la question qu'il y a derrière, c'est est-ce qu'on peut obtenir des latitudes de la part de l'Allemagne sur les dettes publiques? On voit que jusqu'ici, ça a été un échec patent. Alors, est-ce qu'on peut faire changer l'Allemagne?
Mais il faut, parce que sinon on va dans le mur, sinon on va dans le mur.
Mais comment on s'y prend?
Alors, d'abord, il faut se mettre d'accord sur le bilan, parce que l'interview de Tsipras est très bienvenue, mais le problème, c'est pas seulement la Grèce, c'est l'ensemble de l'Union européenne qui est le grand perdant de la crise de 2008-2012 et des outils de sortie de crise qui ont été mis en place. Je veux dire, ça n'est que maintenant, 10 ans plus tard, qu'on commence à peine à revoir une croissance, passez-moi l'expression, minable, alors que les pays qui, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, etc., ont accepté des déficits budgétaires très importants au départ, sont sortis beaucoup plus vite que nous. Bon, donc je veux dire, Il y a ce premier point.
On est d'accord
qui...
sur le constat. Comment on fait pour l'Allemagne?
Alors, comment on fait pour l'Allemagne? Écoutez, moi, je suis pas un homme politique, mais je pense que on fait pas comme Macron. On fait pas en disant, je vais commencer par être un bon élève et ensuite on va discuter. Parce qu'une fois, passez-moi l'expression, qu'on a avalé la couleuvre, il y a plus qu'à avaler la suivante. Donc, je pense que la bonne méthode, c'était celle qui était préconisée par des candidats qui, malheureusement, ne sont pas là au second tour, et il y en avait plusieurs, consistant à dire, pousse, on joue plus. On joue plus. Et la France est une puissance suffisamment forte pour obtenir...
La stratégie du bras de fer, c'était celle d'Hollande quand il a été élu, elle a échoué.
Ah ben non. Non, il n'y a pas eu de stratégie.
Il voulait renégocier.
Ah ben Hollande a annoncé qu'il voulait renégocier. Il est arrivé pour dire où est-ce qu'on signe.
Il a échoué.
Bah, non, il n'a pas essayé. Je veux dire, vous avez entendu parler d'un bras de fer quelconque qui a duré ne serait-ce que 8 jours? Non. Hollande a annoncé qu'il négocierait, et il n'a pas négocié, il a signé. Il a vaguement obtenu la relance du plan Juncker, qui est une bricole, je veux dire, c'est de la rigolade.
Charles de Marcilly.
Si, il a essayé, mais pas 8 jours, 8 secondes.
8 secondes, oui, c'est ça. Oui.
C'est encore plus dur.
Donc on est d'accord.
Et alors, sur les propositions d'Emmanuel Macron, Benjamin Coria nous dit ce n'est pas la bonne méthode, commencez par faire le bon élève, avaler la première couleuvre, les suivantes viendront.
La France vient de prendre la place de la Finlande pour les dépenses publiques, en tout cas en pourcentage de PIB les plus importants.
Oui, mais ça veut rien dire.
Non, mais c'est les messages qui sont transmis à nos partenaires. Oui. Et c'est une décision qui est collective. Et donc je suis tout à fait d'accord que la stratégie du bras de fer est très risquée et dangereuse. Je pense d'ailleurs que ce ne sera pas la méthode qui sera choisie par le prochain président de la République, sauf s'il veut sortir de la zone euro. Et puis de se retrouver dans une situation aussi où il faut convaincre. Et c'est le problème qu'on a, c'est aussi un problème de donner confiance à nos partenaires. C'est pas pour ça qu'on va avoir une austérité absolue. D'ailleurs, nos partenaires, quand ils regardent le système français, ont du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on utilise autant le mot austérité, qui a des effets, des impacts, mais qui sont pas dus à la politique monétaire en direct, qui ont aussi des conséquences de nos problèmes, par exemple, vis-à-vis de la désindustrialisation, de la robotisation, d'autres éléments, de la Chine dans l'OMC, on en parlera peut-être dans la deuxième partie de cette émission, et qu'il y a des éléments qu'il faut prendre dans leur globalité et pas juste s'attaquer sur la politique monétaire. Donc on peut taper sur les Allemands, et ce qui est fait, et pas que par les Français, il y en a évidemment beaucoup qui sont sur cette ligne-là, sauf que pour que la France puisse reprendre ce leadership, il va falloir aussi qu'elle redonne des gages de crédibilité. Et sur ces gages de crédibilité, c'est là, je pense, où on attend aussi à Bruxelles et dans les capitales une sorte d'électrochoc de la part d'Emmanuel Macron s'il est élu.
Vous avez raison de dire qu'il n'y a pas que la politique monétaire, il y a aussi les traités, notamment le CETA. On va retrouver Paul Magnette, ministre-président de la Wallonie, politologue, ancien président de l'Institut des études européennes de l'Université libre de Bruxelles. L'Europe l'avait découvert lors de la crise justement autour des négociations sur le CETA, ce traité de libre-échange signé entre l'Union européenne et le Canada. Il s'était opposé à cet accord, notamment sur la question des procédures d'arbitrage prévues sur le traité, mais pas seulement. On va revenir sur ces blocages, mais d'abord peut-être une réaction sur le résultat du premier tour de l'élection présidentielle française. Lundi, le Premier ministre belge Elio Di Rupo a appelé les Français démocrates à voter contre l'extrême droite de Marine Le Pen, je le cite, et en faveur d'Emmanuel Macron. Il en va de l'avenir de la France et de l'Europe, et donc aussi du nôtre, a-t-il déclaré. Quel regard Paul Magnette porte justement sur ce premier tour de l'élection présidentielle française? On lui a demandé hier.
Ce qui d'abord nous marque, c'est hélas le fait que Marine Le Pen soit au second tour, même si tous les sondages l'avaient prédit. Ça reste dramatique que, comme dans un grand pays comme la France, un candidat d'extrême droite soit au second tour.
Et sur cet appel à voter en faveur d'Emmanuel Macron, qui, en tout cas visiblement du point de vue du Premier ministre belge, est le meilleur pour conduire la réforme au sein de l'Union européenne et d'assurer l'avenir de l'Europe?
Il est candidat contre Marine Le Pen, donc il faut évidemment voter pour Emmanuel Macron. Même si j'avais été français, je n'aurais sans doute pas voté pour lui au premier tour. Mais dans la configuration actuelle, ne pas appeler à voter Macron est irresponsable.
Alors sur le CETA, Paul Magnette, le 15 février dernier, le Parlement européen ratifie cet accord après un débat animé, ce qui doit permettre normalement son entrée en vigueur provisoire, même si chacun des parlements en réalité nationaux va devoir s'exprimer pour qu'il entre pleinement et définitivement en vigueur. Et qu'on ne sait en réalité pas vraiment ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer si on se retrouve devant un refus ou des refus de la part de ces assemblées. Compte tenu des freins qui se sont exprimés à propos de ce texte, et pas seulement du côté de la Wallonie avec vous, on a le sentiment qu'en réalité les jours du CETA sont comptés. Est-ce que vous pensez que le CETA pourra survivre? Est-ce que vous avez la conviction qu'il est déjà mort aujourd'hui, Paul Magnette?
En tout cas, dans l'état actuel des choses, pour nous, il n'est pas ratifiable. Et non pas parce que nous serions dans une logique protectionniste et qu'on va se fermer sur nous-mêmes, mais c'est plus qu'un traité commercial. C'est ce que, je crois, beaucoup de citoyens peut-être n'ont pas toujours perçu, mais c'est un traité économique et commercial qui, sous prétexte de commerce, comporte en fait toute une série de dispositifs qu'on appelle de protection des investissements, en ce compris des mécanismes d'arbitrage qui reviennent en fait à donner un espèce de privilège de juridiction aux multinationales, qui pour nous est en termes de principe tout à fait inacceptable. Donc tout ce volet-là, relatif à la protection des investissements, il n'est pas entré en vigueur de manière provisoire. C'est bien pour ça qu'on avait fait barrage sur ce point et qu'on a accepté de signer qu'à condition que cette partie-là du traité soit révisée. Tant que les engagements qui ont été formulés à notre égard n'auront pas été pleinement rencontrés, nous ne ratifierons pas, en tout cas chez nous en Wallonie, ce traité.
Au-delà du CETA lui-même, c'est aussi toute la question de la souveraineté des États et du retour finalement des démocraties nationales qui est en jeu. Finalement, pour vous, il s'agit d'un enjeu démocratique par lequel les peuples doivent être mis au cœur des décisions européennes qui, pour beaucoup en tout cas, apparaissent comme imposées et non négociables. Mais pour d'autres, Paul Magnette, c'est un blocage de la majorité par une minorité. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique?
Mais c'est moins un problème de rapport entre les États et l'Europe. qu'un problème de rapport entre l'autorité publique d'un côté et le pouvoir des multinationales de l'autre. On se plaint déjà aujourd'hui de ne pas avoir suffisamment de moyens de protéger l'intérêt public face à des multinationales qui ont des pouvoirs exorbitants, qui peuvent décider du jour au lendemain de fermer une entreprise, de mettre des milliers de familles sur le carreau. Demain, si on signe des traités comme ceux-là qui donnent encore plus de privilèges aux multinationales, alors il ne faudra pas se plaindre d'avoir été privé en quelque sorte de ce pouvoir de défendre l'intérêt public. Mais cet intérêt public, il peut aussi bien être défendu à l'échelle européenne qu'à l'échelle nationale.
J'entends parfaitement ce que vous nous expliquez, Paul Magnette, et en même temps, cette question de la négociation du CETA, si l'accord est refusé, il est rejeté par les parlements nationaux, il y a derrière quand même un revers terrible pour la Commission qui a poussé pour cet accord. Donc il y a quand même, quoi qu'il arrive, une question de gouvernance derrière tout ça. On voit très bien qu'aujourd'hui, l'Europe a beaucoup de mal à prendre des décisions communes, à les faire accepter aux États membres. C'est le cas avec le CETA, mais c'est le cas avec beaucoup de choses. Pensons par exemple à la crise des réfugiés, avec ce mécanisme de relocalisation qui a été en réalité refusé par beaucoup d'entre eux. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que finalement cette Europe, celle d'aujourd'hui, est ingouvernable aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il faudrait peut-être pour qu'elle le redevienne, Paul Magnette?
Je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus le diagnostic. L'Europe n'est pas ingouvernable, elle est gouvernée au quotidien et globalement elle fonctionne, mais c'est vrai qu'elle a du mal aujourd'hui à aborder des questions qui sont liées finalement à la mondialisation. Que ce soit le mouvement des hommes et des femmes, les mouvements migratoires, l'accueil des réfugiés, ce sont effectivement des sujets que l'Europe n'arrive plus véritablement à régler, ou que ce soit la question du commerce, c'est aussi une question sur laquelle l'Europe n'arrive plus à créer de consensus. Alors moi je ne mettrai pas tout dans le même ensemble, parce que je pense qu'il faut avoir un jugement un peu nuancé, mais sur la question commerciale, j'invite vraiment la Commission européenne à faire une pause. Il n'y a pas d'urgence à signer de nouveaux traités commerciaux avec le Japon, avec des tas d'autres pays. Il y a 20 traités aujourd'hui qui sont en cours de négociation avec 60 États. Je crois qu'on devrait se dire, on interrompt les négociations et on réfléchit à ce que nous voulons comme mondialisation demain et comment faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus équilibrée, comment faire en sorte que l'on aide celles et ceux qui sont victimes d'une concurrence internationale de plus en plus effrénée.
On interrompt les négociations, mais on a le sentiment qu'avec vous, c'est plus que ça, c'est presque un retour en arrière. Vous avez dit à propos de certains pays, notamment des pays de l'Est, comme la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, qu'il fallait peut-être oser envisager les sortir de l'Union européenne s'ils n'acceptaient pas les contraintes du projet européen. Vous pensez vraiment qu'il serait pertinent d'exclure ces pays pour espérer retrouver justement une nouvelle dynamique, retrouver peut-être une meilleure gouvernance aussi, même si vous avez raison, Paul Magnette, d'insister sur le fait que tout n'est pas noir et qu'il y a effectivement des choses qui fonctionnent, mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'autres ne fonctionnent pas, et c'est surtout sur ces choses-là que les nationalismes pullulent et que le danger arrive finalement. Alors, vous pensez vraiment qu'il faut peut-être resserrer les rangs et revenir dans une modalité plus restreinte pour renvoyer peut-être cette Europe sur des rails plus sereins ?
Moi, je ne veux exclure personne, mais quand on a écrit le dernier traité, on a considéré que l'Union européenne n'était pas seulement un grand marché, mais que c'était aussi une communauté de droits, une communauté de principes, une communauté de valeurs, et que les États membres devaient les respecter. Et quand vous avez des pays comme la Pologne ou la Hongrie aujourd'hui qui votent des lois qui s'attaquent aux libertés publiques, qui défient ouvertement l'Union européenne et les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de l'Union européenne, alors je crois qu'il faut activer les mécanismes de sauvegarde qui existent dans les traités. Il y a un article qui est l'article 7, qui permet de prendre des sanctions contre les pays qui violent les droits et libertés fondamentales ou qui menacent de le faire. Je crois que M. Orban, aujourd'hui, dans un espèce de délire politique où il pense que, comme M. Erdogan, il peut tout se permettre et qu'il ne devra jamais essuyer la moindre sanction, doit se voir rappeler qu'être membre de l'Union européenne, ce n'est pas seulement des droits, c'est aussi des devoirs, c'est aussi des engagements.
Et pourquoi, selon vous, ces sanctions ne sont pas prises ?
Je crois que ce type de mécanismes de sanctions sont toujours effectivement très délicats à mettre en œuvre et que sans doute la Commission européenne essaye d'abord, à travers toute une série de contacts informels, d'ouvrir un dialogue avec M. Orban, mais il faut constater que ça ne marche pas et aujourd'hui il faut, je crois, activer les clauses de sanctions qui existent.
Mais je reviens sur ma question première, est-ce que vous pensez que si justement ces mesures sont prises et qu'elles n'ont pas d'effet, il faut envisager effectivement de finalement diminuer le nombre d'États membres dans cette Union européenne ? Vous pensez que
ça ne doit pas être un objectif en soi de diminuer le nombre d'États membres, mais je pense qu'il n'y a rien d'insultant de dire à certains pays, peut-être que vous n'êtes pas bien dans l'Union européenne, peut-être que finalement vous préférez retrouver votre totale liberté, faire des choses qui correspondent à vos préférences mais qui ne sont pas conformes aux valeurs de l'Europe, et dans ce cas-là, reprenez votre liberté comme les Britanniques l'ont fait.
Une toute dernière question, si vous me le permettez, Paul Magnette, parce que vous êtes politologue et vous êtes ancien président de l'Institut des études européennes de l'Université libre de Bruxelles, peut-être que les auditeurs ne le savent pas, et puis vous êtes aussi l'auteur d'une thèse sur la citoyenneté européenne. Je voudrais vous entendre justement sur cette question-là. Qu'est-ce qui, pour vous, aujourd'hui, constitue les éléments les plus solides, les plus essentiels de cette citoyenneté? Est-ce que c'est, comme on le dit plus souvent, la question de la libre circulation? Et aujourd'hui, compte tenu des crises auxquelles est confrontée l'Europe, je pense aux migrants, je pense aux dettes publiques, je pense à la montée des populismes qu'on a évoqué également. Est-ce que ces éléments constitutifs de la citoyenneté européenne vous paraissent suffisamment solides pour permettre à l'Europe aujourd'hui de survivre ?
Alors je pense que les éléments de citoyenneté européenne, ils sont solides et ils sont ressentis par les citoyens qui bougent. Parce que l'apport essentiel de la citoyenneté européenne, c'est d'avoir supprimé des discriminations à l'égard des citoyens des autres ressortissants. Un citoyen italien qui vit en France a aujourd'hui pratiquement les mêmes droits qu'un citoyen français. En tout cas, il a beaucoup plus de droits aujourd'hui en France qu'il n'en avait il y a 30 ou 40 ans avant la fondation de cette citoyenneté européenne. Et ça, je crois que c'est un grand acquis parce que ça crée vraiment une égalité de droits entre citoyens qui appartiennent à une même communauté politique. Mais les citoyens qui ne quittent pas leur territoire, eux, ne se rendent pas compte de cet avantage qu'ils peuvent avoir et du bénéfice qu'il y a à appartenir à l'Union européenne. Par exemple, tous les droits dont nous sommes bénéficiaires, qui sont énoncés de manière très claire dans la Charte des droits de l'homme de l'Union européenne, eh bien souvent, on les oublie, on les prend comme des évidences et on oublie qu'on a là des garanties qui nous sont offertes par l'Union européenne. Je pense que c'est important aussi de le rappeler, c'est aussi une communauté de droits et une communauté de valeurs.
C'est aussi une communauté de droits et de valeurs, nous disait Paul Magnette, ministre-président de la Wallonie, politologue, ancien président de l'Institut des études européennes de l'Université libre de Bruxelles, qu'on avait découvert, en tout cas pour certains, lors de cette crise autour des négociations sur le CETA, le traité de libre-échange signé entre l'Union européenne et le Canada. Benjamin Coria, un mot de réaction et de conclusion, on arrive presque au terme de cette émission, sur la question du libre-échangisme, visiblement en perte de vitesse.
En perte de vitesse et à juste titre. Moi, ce qui me désole, c'est que l'Union européenne a toujours la même réponse. Chaque fois qu'elle est en difficulté, depuis 1986 pratiquement, elle pense en termes de ouverture, ouverture, ouverture. Et donc là, dans la crise actuelle, c'est le CETA, le TAFTA, etc. Ce qui est évidemment une réponse totalement erronée. C'est pas en accroissant la concurrence, c'est pas en accroissant l'ouverture qu'on va résoudre nos problèmes. Donc je pense que l'heure, elle est à l'inverse. Elle est à repenser une régulation, à réactiver la clause sociale, réactiver la clause environnementale et avoir une vraie politique européenne de réindustrialisation.
Merci beaucoup Benjamin Coria. Je rappellerai qu'auteur avec les économistes atterrés de Changer l'avenir, sous-titré Réinventer le travail et le modèle économique. Un grand merci à Charles de Marcy qui était avec nous en duplex et je remercie également Pierre Benazet qui a assuré ce duplex. Je rappellerai Charles de Marcy que vous êtes notamment l'auteur, co-auteur de ce rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2017, paru aux éditions Ligne de Repère.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Eh bien, Brice Couturier, tout de suite. Bonjour, Brice.
Bonjour, Florian.
Vous nous parlez depuis lundi d'un phénomène de société, l'exigence d'authenticité, qui semble correspondre étrangement à une certaine dévalorisation de la vérité. Hier, vous nous avez présenté la thèse de Lionel Trilling, selon laquelle l'authenticité serait une des caractéristiques de la modernité elle-même, une manière de revendiquer une forme d'originalité individuelle qui peut s'avérer antisocial.
Oui, et cette demande d'authenticité concerne, remarquez-le, tous les secteurs. Les spécialistes du marketing le savent bien, les consommateurs veulent des produits authentiques, on appellera ainsi certains, parce qu'ils sont issus d'une tradition locale, d'autres parce qu'ils sont composés de matériaux réputés naturels. Les articles de luxe peuvent être vendus très cher parce qu'ils sont issus d'un savoir-faire ancestral, etc. Alors on peut se moquer, comme Francesca Elliott, de ces riches New-Yorkais qui remplacent leurs belles tables de cuisine par des vieilles portes de bois massif, rugueuses et rongées par les vers venus de quelques vieilles fermes du Midwest, mais c'est ainsi. Les gens veulent de l'authentique, alors on leur en vend. Alors c'est évidemment dans le domaine politique que cette demande d'authenticité s'avère la plus cruciale. Les partis populistes, partout à la manœuvre en notre époque désenchantée, sont fondés sur une prétention toute particulière à l'authenticité. C'est la thèse que développait l'économiste et politologue Timur Kuran dans un essai publié l'an dernier par le site Cato Unbound. Les populistes, écrivait-il, sont censés parler avec leur cœur, dire ce qu'ils voient, et donner voix aux inquiétudes des masses. Leur promesse politique, eh ben, si on leur donne le pouvoir, celui-ci deviendra plus honnête. Il ne faut pas se le cacher, Ils surfent ainsi sur la lassitude d'un public agacé des discours convenus et ambigus destinés à ratisser large. La langue de bois politicienne n'est pas un mythe. Il y a en effet une manière de s'exprimer vague et ambiguë, technocratique ou moralisatrice, qui est devenue le style même du pouvoir. Mais si les dirigeants des États démocratiques paraissent souvent s'adresser de manière différente aux divers secteurs de leur électorat, c'est pour des raisons dont le public n'a pas toujours conscience. Et Timur Kuran prend l'exemple bien concret d'un élu des États-Unis qui souhaite la création d'une école dans un quartier défavorisé. Il va lui falloir convaincre des électorats aux idées et aux intérêts divergents. Aussi, aux uns, les entrepreneurs, il va vanter l'amélioration du niveau de qualification des habitants du quartier. Aux autres, les classes moyennes, il va expliquer que cela aurait pour effet de faire régresser la criminalité. Aux intéressés, il tiendra le discours de la justice sociale. Un dirigeant dans une démocratie doit en effet bâtir des coalitions. Dans une société qui, comme les nôtres, accepte et valorise la diversité des opinions et des intérêts, il n'y a pas d'action collective possible sans compromis. Oui, les élus doivent adapter, tailoring, comme il dit, leur discours en fonction des publics visés. Et cela n'a rien à voir avec l'inauthenticité qu'on leur reproche, mais avec cette nécessité de forger des coalitions.
Oui, forger des coalitions. Mais l'obligation dans laquelle ils se trouvent de fédérer des publics différents peut aussi donner l'impression, en tout cas une impression, d'un manque de sincérité. Car après tout, Brice, des politiciens peuvent mentir dans un but moins noble que de faire construire une école pour acquérir ou conserver le pouvoir, tout simplement.
Oui, bien sûr, et cette impression n'est pas infondée, gonfle aussi l'actuelle poussée populiste. Trump, par exemple, pour se distinguer de la classe politique américaine traditionnelle, s'est imposé en s'exprimant de manière, on le sait, vulgaire et provocatrice. Par des gestes transgressifs, il mettait en scène ainsi sa supposée différence, son éloignement de l'establishment de Washington. La stratégie des leaders populistes, lorsqu'ils s'emparent d'un parti, c'est de poser aux représentants de la base contre la machine électorale. Cela les rend sur le moment rafraîchissants, écrivait Timur Kuran. Mais cette pseudo-sincérité a pour inévitable conséquence un appauvrissement dans la présentation de la réalité, une réduction des problèmes les plus complexes à quelques idées fixes ressassées en permanence. En français, on dit toujours « yaka faucon », n'est-ce pas ? Eh bien, les politiciens populistes expliquent que tous les problèmes peuvent être résolus sans léser les intérêts d'aucune fraction de l'électorat, ce qui est bien sûr un mensonge. Généralement, ils prétendent que seul l'étranger paiera la facture de leurs promesses inconsidérées. Mais qui ne voit que les mesures protectionnistes, par exemple, ou les dévaluations compétitives, provoquent inévitablement des réactions de même ampleur chez les partenaires commerciaux. Lorsque les candidats populistes sont élus, car cela leur arrive, dit encore Timur Kuran, qui écrivait, il faut le noter, juste avant la victoire de Trump, ils s'avèrent bien entendu incapables de tenir la plupart de leurs promesses électorales. Alors ils mettent en cause des puissances obscures, le mur de l'argent, des complots menés de l'étranger, comme les dirigeants des États totalitaires qui attribuaient systématiquement les désastres provoqués par l'application de leurs idées absurdes aux traîtres et aux saboteurs. Mais rétrospectivement, écrit Timur Kuran, alors que se sera éteinte l'excitation de la campagne, eh bien les électeurs verront que l'authenticité qu'on leur avait présentée n'était qu'un masque astucieux porté par leur candidat dans l'idée de se montrer plus malin que ses adversaires. Ainsi prédisait-il, l'authenticité de Trump, s'il parvient au pouvoir, se révélera une simple affaire d'esbrouf, d'exagération, émanant d'un personnage à l'ego surdimensionné.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique sur le retour de l'authenticité. On voit que sous le voile de l'authenticité, il y a des choses très intéressantes. Benjamin Corian, on l'entend. Hein, le micro n'est pas ouvert. On peut le... Très rapidement.
Oui, en effet, et c'est vrai que dans la période dans laquelle on est, l'importance de la parole et du respect de la parole va être capitale.
Merci beaucoup en tout cas Brice Couturier pour cette chronique sur l'authenticité absolument passionnante. J'invite les auditeurs à écouter aussi celle de lundi et d'hier, qu'on peut retrouver bien sûr sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.